France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. L'érosion qui grignote nos côtes et nos montagnes, effondrement de falaises ce week-end dans le Calvados, nous serons sur place. En Savoie, la chute de rochers sur la route complique l'accueil des skieurs à partir de samedi, début des vacances scolaires. Nous verrons cela. À suivre encore, l'Europe face à Trump, hausse des droits de douane annoncée ce week-end par le nouveau président américain. Réponse d'Emmanuel Macron ce matin.
Si nous étions attaqués sur les sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir.
Et nous verrons que les Européens doivent aussi se préparer à dépenser davantage pour leur sécurité. Le budget 2025, budget de l'État mais aussi de la sécurité sociale, 1 voire 2, 49.3 déclenché cet après-midi, pour des économies qui ont des conséquences sur les sorties scolaires. Elles vont être fortement réduites ces prochaines semaines. Les mots du français pour parler du budget, les mots selon nos régions. Ce sera à 13h50, le C'est la France de notre linguiste Mathieu Avanzi. À la une également, ce grand champion français qui jette l'éponge. Bonjour Emma Sarango.
Bonjour.
Il s'agit de Martin Fourcade.
Qui écrit un courrier ce matin aux élus des Alpes. Il y a trop de désaccords, dit le biathlète, et l'on comprend que la réconciliation avec Laurent Wauquiez n'a pas eu lieu.
A tout de suite pour vos explications. À partir de 13h30, comment adapter nos prisons à la lutte contre le trafic de drogue, le ministre de la Justice est en Italie aujourd'hui pour y visiter une maison d'arrêt. Et la secrétaire nationale du syndicat des directeurs pénitentiaires est notre invitée. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton. Nous passons toute cette semaine avec une syndicaliste CGT qui est devenue préfète, parcours étonnant de Marilyn Poulain. Ça se passe en Alsace. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson avec l'actrice Valérie Caprisky.
De temps en temps, quand je me retrouve dans une soirée, à un moment, il y a toujours un moment où je vais la chanter. Tout le monde me regarde en disant « Oh non, elle va pas encore chanter Hotel California
». Nous chanterons donc avec elle Hotel California, les Eagles. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
Inter.
Chaque année, une soixantaine d'éboulements sont recensés sur la côte normande. Hausse du niveau des mers, fortes pluies, activités humaines, voici les causes. Et cela en fait l'une des régions de France les plus concernées par l'érosion. Mais certains éboulements se voient plus que d'autres, à l'image d'un pan de falaise de Port-en-Bessin qui s'est effondré samedi après-midi, ce qui attire depuis de nombreux promeneurs. Sur place, Gabriel Grécourt.
Au pied de la tour Vauban, une barrière empêche les passants de se promener sur le rivage et pour cause, un morceau entier de la falaise s'est effondré sur la plage. Un spectacle impressionnant pour Sylviane.
C'est tout ce qui est tombé là. C'est parti du haut là-bas et c'est jusqu'en bas. Regardez ce que vous voyez là. Voilà, tout ça c'est tombé comme ça.
Alors forcément, de nombreux curieux sont postés derrière la barrière pour observer le glissement de terrain. C'est le cas d'Émilie.
On a vu ça sur les réseaux sociaux. On a fait les curieux. Mais c'est impressionnant. Sur Internet, c'est pas pareil.
Un peu plus loin, Natacha, elle, est plutôt inquiète face à ce spectacle.
Ça fait partie du réchauffement climatique, hein, je pense. Avec les tempêtes, les pluies diluviennes qu'on a eues ces derniers jours, l'érosion partout, hein, sur toutes les côtes de la Manche, hein, de toute façon. Hein.
Et dans ce cas précis, il y a un risque aussi pour le patrimoine.
Ça menace peut-être un peu la tour Vauban, là, qui peut-être va être amenée à disparaître incessamment sous peu. C'est une partie du patrimoine de Port-en-Bessin qui est touchée. Hein.
Pour le moment, la plage reste interdite d'accès jusqu'à nouvel ordre.
Reportage ici Normandie, et c'est vrai que le début d'année a été très pluvieux, plus 50% de précipitations sur l'ensemble de la métropole, nous dit Météo France, avec des records en Ille-et-Vilaine et Loire-Atlantique, mais un déficit de pluie enregistré en revanche près de la Méditerranée, surtout dans le Roussillon, au mois de janvier. Autre éboulement à 900 km de la Normandie. Nous sommes en Savoie, dans les Alpes, où l'érosion de la montagne, on le sait, est accélérée par le réchauffement climatique. Samedi matin, des rochers sont donc tombés sur la Nationale 90, la route qui dessert des stations de ski comme les Trois-Vallées, Tignes ou encore la Plagne. Depuis, la circulation est très perturbée. Alors, un quart de ces rochers ont été dégagés, mais le temps presse. Les vacances scolaires de février débutent samedi et 35 000 véhicules sont attendus. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Il y a donc un fort risque que la route ne rouvre pas entièrement samedi et sur place on s'organise.
Et oui, il faut évidemment parce que l'équation est à paramètres multiples. Vous l'avez dit, 35 à 40 000 véhicules attendus samedi et dimanche dans le sens de la montée et presque autant dans l'autre sens. Un seul axe de circulation étroit où la vitesse est très réduite, des conditions météo qui peuvent se dégrader vu la saison, des trains quasi pleins, peu de possibilités donc d'y reporter une partie du trafic. Ça vous situe le défi logistique. Beaucoup de réunions de coordination s'organisent à partir d'aujourd'hui entre les services de l'État, le département, les maires et bien sûr les professionnels du tourisme. Objectif, accueillir tout le monde le mieux possible, à toute heure. Les réservations dépassent les 90% dans les stations et évidemment, personne ne veut perdre une journée de vacances. Un conseil semble émerger pour les vacanciers, prévoir un hébergement intermédiaire dans leur parcours, dit Cédric Latou, le directeur de l'Office du tourisme de la Plagne.
Les gens qui vont venir en station sur les 4 futures semaines doivent prévoir ou imaginer en tout cas d'avoir une nuit d'attente, quelle qu'elle soit, peut-être à Lyon ou à Chambéry ou Annecy ou Grenoble. Après, des personnes qui vont peut-être venir de Normandie ou de Bordeaux, aussi de pouvoir à Clermont-Ferrand, sur des secteurs de ce type-là, à Saint-Etienne.
Les hébergeurs vont faire chauffer les téléphones et les mails cette semaine pour donner des consignes à leurs clients. Les maires, eux, devraient prévoir de nouveaux dispositifs d'accueil avec des salles chauffées et du ravitaillement au cas où des automobilistes se retrouveraient bloqués sur cet axe.
Comme cela a été le cas ces derniers jours, merci Béatrice Duguay. Ce matin, c'est la circulation des trains entre Paris et Mantes-la-Jolie qui a été interrompue en raison d'un défaut d'alimentation électrique. Beaucoup de retard entre Paris, Gare Saint-Lazare et la Normandie. Nous étions sur la route dans les Alpes il y a une minute. Restons sur la route. La Norvège est quasiment au 100% électrique pour ses ventes de voitures en janvier. 96% des nouvelles immatriculations étaient des voitures électriques. Là-bas, ces véhicules disposent de beaucoup d'avantages fiscaux et de facilités de circulation. Mais le pays qui donne le ton en matière automobile, ce sont les États-Unis et l'électrique, qui a près de 16 millions de voitures neuves vendues l'an dernier, et c'est le niveau le plus élevé depuis 2019. Je voudrais qu'on vous donne la parole, Maxime Deb, ça me permet de retrouver ma voix. Donald Trump annonce qu'il augmente les droits de douane contre le Mexique et le Canada. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Et les constructeurs européens plongent depuis ce matin.
Oui, et les constructeurs effectivement, dont Stellantis, qui perd 6% à la bourse ce matin. Et il faut donc savoir qu'il y a un enjeu pour ces constructeurs qui, dans l'espoir de conquérir le marché nord-américain, des compagnies comme Mercedes, Kia ou Nissan ont toutes élu domicile au Mexique ces dernières années. Et Volkswagen a fait ce pari également et a même annoncé récemment qu'il allait produire sa célèbre Golf à Puebla, près de Mexico. Enjeu de main-d'œuvre, on l'imagine bien pour les constructeurs, dans l'idée de réduire les coûts de production et de faire entrer au meilleur prix ensuite leurs véhicules aux États-Unis, marché d'avenir pour eux. Jusqu'ici, tout allait bien, d'autant que les industriels étaient protégés par le USMCA, accord de libre-échange entre les Américains, les Mexicains et dans une moindre mesure ici les Canadiens. Sauf qu'il y a une clause dans cet accord que Donald Trump veut aujourd'hui faire sauter et qu'avec des droits de douane beaucoup plus élevés comme il l'annonce, on s'en doute, c'est le risque d'une répercussion considérable sur le prix en concession des modèles trop chers, difficilement vendables et un modèle économique qui ne tient plus. Vrai bâton dans les roues des constructeurs qui pourraient décider, dans un monde idéal, c'est vrai, de produire aux États-Unis, mais on ne déménage pas des usines aussi facilement, aussi rapidement, ça prend du temps, ça coûte également beaucoup d'argent et ça explique cette panique ce matin sur les marchés financiers.
L'action Stellantis a perdu près de 6% de sa valeur ce matin à la Bourse de Paris. C'est ce que j'essayais de vous dire il y a quelques secondes. Sans y parvenir, merci Maxime Debs. Donald Trump qui a aussi promis une hausse des droits de douane aux Européens ce week-end. Si nous étions attaqués sur les sujets commerciaux, l'Europe devrait se faire respecter et donc réagir, a dit ce matin Emmanuel Macron. Le président français qui participe à Bruxelles en ce moment à un sommet des dirigeants de l'Union européenne consacré à la défense. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous suivez ce sommet pour Inter. Les Européens se préparent à devoir dépenser encore davantage pour assurer leur sécurité.
Oui, avec un sentiment d'urgence dont ont parlé plusieurs chefs d'État en arrivant tout à l'heure en fin de matinée. Les questions industrielles autour de la défense devraient les occuper une bonne partie de la journée. Il s'agit de moins dépendre des approvisionnements américains. Première difficulté, car tous les Européens ne sont pas alignés. Certains, comme la Pologne, étant davantage habitués que d'autres à passer des deals avec les États-Unis. Ensuite, deuxième difficulté, comment financer l'effort industriel européen ? Des enjeux essentiels et même existentiel pour l'Europe, à entendre Emmanuel Macron qui s'est exprimé à son arrivée.
Ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment même, en Ukraine, ce qui se passe avec aussi
les choix, les déclarations américaines de la nouvelle administration du président Trump, eh bien, poussent les Européens à être plus actifs pour aller plus loin sur leur industrie de défense. Comment l'Europe produit davantage pour elle-même? Comment l'Europe assume d'investir davantage sur son avenir? Et c'est en décidant d'acheter, de préférer les achats européens, qu'elle sera plus indépendante. C'est assez simple.
Pas de décision attendue en fin de journée pour autant, nous expliquons ici à Bruxelles. Cette rencontre informelle est davantage conçue comme un échange de vues. Les institutions européennes donnent rendez-vous au printemps pour la publication d'un livre blanc sur la défense, puis en juin pour les premières décisions.
Merci Fabien Cazot en direct avec les moyens techniques de Benjamin Thuot. Autre sujet européen, la lutte contre l'immigration clandestine. Dans le département du Pas-de-Calais, les tentatives de traversée de migrants vers le Royaume-Uni ont fait 77 morts l'an dernier. Et déjà 6 depuis le 1er janvier. Pour les empêcher, une centaine de caméras anti-passeurs ont été installées depuis 2 ans, financées par les Britanniques. Problème, la connexion avec le PC des forces de l'ordre à Arras, PC qui est censé intervenir, cette connexion n'est toujours pas opérationnelle. Les travaux débutent tout juste, Mathieu Darrier.
À Sangatte, littoral le plus exposé car le plus proche de l'Angleterre, sur les 12 points de surveillance envisagés, seuls 3 ont été installés pour couvrir plus de 9 km de littoral. Et les images n'étaient pas connectées au PC d'Arras pendant près de 2 ans, regrette Guy Allemand, le maire.
Il a fallu que j'interpelle publiquement les choses pour qu'on s'emploie aujourd'hui à réquisitionner des images qui étaient enregistrées. Ça veut dire que les caméras fonctionnaient, sauf qu'il n'y avait pas un système qui va plus dans le sens de la prévention plutôt que d'aller rechercher les images après les événements.
À Ambleteuse, les 21 caméras, dont certaines peuvent identifier des immatriculations, sont un soulagement pour Stéphane Pinto, le maire, confronté à la mort de 8 migrants l'été dernier. Il est sollicité une fois par mois par la police.
On a eu une demande de réquisition de par la police des frontières où ils ont suivi depuis Calais une voiture qu'ils ont suspectée comme étant une voiture de passeur. Et donc, on voit la personne qui descend de cette voiture et qui s'en va à pied. 2 jours après, c'est entre 2h et 2h06 du matin qu'on s'aperçoit que la voiture a quitté le lieu où elle était.
Ces caméras que les Anglais ont payées sans réticence pour 200 à 300 000 euros par commune, elles permettent aussi de faire avancer des enquêtes de délinquance locale ou routière.
Reportage de nos confrères d'ici Nord.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Aujourd'hui, on ne voit pas trop quelles économies sont faites dans ce budget. La petite phrase ce matin sur Inter du patron de Super U, Dominique Schulcher, résume l'état d'esprit de beaucoup de chefs d'entreprise alors que débute une semaine décisive pour le budget 2025. Nous allons en parler avec Julien Nény, service politique, et Claire Chaudière, service économie. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
D'abord, un exemple concret des conséquences des choix du gouvernement pour faire des économies. Le gel du pass culture bloqué à 50 millions d'euros pour cette année 2025. Bonjour Sonia Princé.
Bonjour.
Cela va avoir des conséquences pour les sorties scolaires.
Oui, la partie collective du pass culture destinée aux collèges et lycées est gelée jusqu'à la fin de l'année scolaire. La décision a été brutale. Les établissements ont été pris de court. Tous les projets prévus cette année et qui n'étaient pas encore réservés sur la plateforme dédiée ne seront pas financés. Exemple des conséquences avec Anna, enseignante d'art plastique et référente culture dans un collège du Val-de-Marne classé en éducation prioritaire.
Les élèves qui sont de familles défavorisées, voire très défavorisées, ne vont plus avoir accès aussi facilement à la culture, au cinéma, au théâtre, au musée. Ça bloque également nos enseignements. Par exemple, l'égalité filles-garçons, j'ai une collègue qui n'a pas pu concrétiser ce projet d'atelier en rapport avec l'égalité filles-garçons au collège. J'ai une autre collègue en espagnol qui travaille sur le flamenco. Ils ont un projet depuis septembre sur un flash mob en flamenco et donc en lien avec l'espagnol. Et donc ça, ce projet ne va pas pouvoir être financé.
Or, ces projets aident les enseignants à motiver les élèves. Cela fait partie de la pédagogie. Alors, le gouvernement conserve 22 millions d'euros qui seront disponibles à partir de la rentrée de septembre. Mais les professeurs s'inquiètent d'un nouveau coup d'arrêt lorsque cette enveloppe sera consommée. Pour eux, il faudrait raisonner en année scolaire et ne pas interrompre des projets en cours.
Merci Sonia Princé. Alors, malgré tout, on entend cette critique. Ce budget 2025 ne taillerait pas assez dans les dépenses de l'État. Il ferait surtout porter l'effort sur les recettes supplémentaires. Claire Chaudière, qu'en est-il ?
Eh bien, il y a un vrai débat sur le sujet. D'un côté, Bercy répète qu'il y a environ un tiers de nouvelles recettes, nouveaux impôts, grandes entreprises et ménages aux très hauts revenus notamment, pour deux tiers de baisses sur les budgets des différents ministères, des différentes aides, de la dépense sociale et des collectivités. Et puis de l'autre, eh bien, certains économistes, comme ceux du Haut Conseil des Finances Publiques, qui ont rendu un rapport sur le budget il y a quelques jours à peine, n'aboutissent pas du tout à la même fourchette. On est, selon eux, plutôt à seulement 10% de baisse de la dépense structurelle. C'est un peu technique, on ne va pas rentrer dans les détails. Ces deux lectures ont quelque part leur part de vérité, hein, selon ce qu'on observe exactement. Mais le Haut Conseil nous dit encore, je cite, que ces évolutions de la dépense publique, si elles sont validées, seraient les plus fortes baisses de la décennie. Certes, la dépense augmenterait encore de 0,6%, mais c'est un énorme coup de frein par rapport à ce qui se serait passé si on n'avait rien fait du tout, nous dit Bercy. Et le président de la Commission des Finances de l'Assemblée, le LFI, Éric Coquerel, acquiesce, lui qui répète que ce budget est celui de l'austérité. Moins 2,6 milliards sur l'écologie, dit-il, ou encore moins 1,5 milliard d'euros sur le logement, à titre d'exemple. C'est inédit.
Tout cela est donc le fruit d'un compromis trouvé ces dernières semaines entre les partis qui ont accepté de négocier. Reste maintenant à le faire passer. Ce sera en utilisant l'article 49.3 pour le vote du budget, c'est-à-dire 100 votes, a dit hier le Premier ministre François Bayrou. Julien Nenni, on vous retrouve. Selon vos informations, ce sera aussi le cas du budget de la Sécurité sociale.
Oui, et dès aujourd'hui, Jérôme, François Bayrou ne veut visiblement pas perdre de temps avec deux 49.3. Donc, dans l'ordre, le premier sera dégainé peu après 16h à l'Assemblée sur le budget de l'État. Puis le deuxième dans la foulée sur le budget de la Sécurité sociale, si bien qu'aux alentours de 17h30 maximum, les débats du jour seront clos. Mais pas le suspense, les deux motions de censure seront déposées dans la foulée par les oppositions avec un vote probable mercredi.
Pourquoi François Bayrou fait-il ce choix ?
Alors d'abord parce qu'il n'a pas vraiment le choix, faut se le dire. Hein. Le budget, c'est le vote le plus politique de l'année. Voter pour, c'est soutenir le gouvernement. Voter contre, c'est s'y opposer. Donc forcément, dans une assemblée ultra divisée, impossible d'imaginer rassembler une majorité de députés sur le budget. Mais allez vite avec les 49.3 donc. Ça a aussi un double intérêt pour François Bayrou. D'abord, ça permet de faire voter dès mercredi les deux motions de censure en même temps et donc d'en obtenir le même résultat. On imagine mal, en effet, le PS par exemple, ne pas censurer le gouvernement sur le budget de l'État mais faire l'inverse quelques minutes après sur le budget de la Sécu. Enfin, ça permet à François Bayrou, sauf improbable censure, de clore la séquence budgétaire au plus vite et de s'attaquer aux autres chantiers des prochains mois. Éducation, justice, outre-mer, immigration, etc. Vous l'avez compris, François Bayrou ne s'imagine donc pas une seule seconde quitter Matignon cette semaine.
Voilà qui va bien nous occuper toute cette semaine. Merci Claire Chaudière et Julien Nenni pour ces informations. Là, il ne s'agit pas de faire des économies, mais de lutter contre le gaspillage alimentaire. Une proposition de loi vient d'être déposée au Sénat, inspirée des engagements de la ville de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, où des supermarchés, des écoles, des EHPAD également ont signé une charte à l'initiative de la mairie. Et depuis 2021, 230 000 équivalents repas ont été ainsi sauvés et redistribué, Victor Costamounier.
En haut de la grande rue commerçante, Denis dirige un supermarché suffisamment grand pour être soumis à la loi de 2016 contre le gaspillage, mais il a tout de même signé la charte avec la mairie, ce qui lui permet de bénéficier de la logistique mise en place.
Ce qui est en date du jour, à part à la Croix-Rouge, divisé par 3 ce qu'on jette à la poubelle. Ça dépend des jours. On doit avoir 100 ou à 200 euros de marchandises, des fois on a 25, des fois on a 300. Ça dépend de la casse qu'on a.
Si tous les commerces de la ville n'ont pas signé la charte, sur les marchés, les vendeurs participent s'ils le peuvent. Florian est primeur et délégué des maraîchers.
On donne à des associations qui passent au niveau des stands, demander tout simplement si on a des choses à donner, à jeter, et du coup ils récupèrent ça comme ça.
Des initiatives inspirantes pour la sénatrice LR des Hauts-de-Seine, Marie-Do Eschliman. Elle a d'ailleurs déposé une proposition de loi qui vise à abaisser de 400 à 200 mètres carrés la surface des supermarchés, obligés de donner des invendus alimentaires à des associations. 5000 petites surfaces seraient concernées.
Le font parfois, mais c'est pas toujours organisé. De petits commerces de proximité alimentaire, ils peuvent aussi jouer un rôle social important. Et bien là, on va donner un cadre, pouvoir faire en sorte que ce soit plus fluide et supprimer les contingences. Ah, aujourd'hui, il n'y a personne pour récupérer les invendus, etc., etc.
La proposition de loi, tout juste déposée au bureau du Sénat, vise également à augmenter l'amende prévue pour les commerces qui aspergent de la javel sur leurs invendus.
Victor Costamounier, la politique qui se glisse aussi dans le sport. On parle de la présidence du comité d'organisation des Jeux d'hiver de 2030 qui auront lieu, faut-il le rappeler, en France, dans les Alpes. Depuis des semaines, Emmanuel Macron pousse la candidature du sextuple champion olympique de biathlon, Martin Fourcade, quand l'homme fort de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, lui, n'en veut pas. Et bien ce matin, Martin Fourcade a donc renoncé, Emma Sarango, un caillou de plus dans la chaussure de ces JO mal partis.
Oui, dès le départ, avec une candidature menée en à peine 4 mois, validée 3 semaines seulement après la dissolution de l'Assemblée, une garantie financière qui n'est toujours pas validée tant qu'il n'y a pas de budget, et ce matin, donc, une star du sport français censée être l'incarnation de ces JO qui décide de renoncer. Je ne peux pas me résoudre à sacrifier mes convictions, écrit Martin Fourcade, qui souhaitait porter des Jeux en phase avec leur époque, conscient des enjeux écologiques, mais qui regrette, je cite, que cette vision ne soit pas partagée par les acteurs du dossier. Et puis le biathlète pointe des désaccords sur le mode de gouvernance. Et il est là, en réalité, le point de rupture. Fourcade était le candidat de l'Élysée et du CIO, mais pas du tout celui des régions, et notamment de Laurent Wauquiez, qui ne préside plus Auvergne-Rhône-Alpes, mais qui est encore aux manettes. Lui aura tout fait pour savonner la planche du champion olympique, dit-on en coulisses, en dénonçant notamment des prétentions salariales délirantes et des contrats de sponsoring problématiques. La dernière chance de réconciliation, c'était Michel Barnier, nommé au lendemain de son départ de Matignon pour mettre de l'huile dans les rouages. Mais l'ancien co-président d'Albertville 92 aura visiblement essuyé un nouvel échec.
Exit Fourcade, qui va donc prendre la tête de ce comité d'organisation?
Eh bien, il reste deux noms, et celui qui tient la corde est encore un biathlète, Vincent Jay, champion olympique en 2010 à Vancouver, et qui est lui justement le candidat de Laurent Wauquiez. Il est d'ailleurs déjà dans les effectifs de la région Rhône-Alpes. Et puis l'autre candidate est une femme, Marie Martineau, la skieuse acrobatique. Tous les deux, comme Martin Fourcade, ont dû passer devant la haute autorité de transparence de la vie publique. Et l'on devrait savoir qui des deux l'emportera dans 15 jours, le 18 février, lors de la présentation du comité d'organisation à Lyon.
Emma Sarango, la Grèce, berceau de l'olympisme, la Grèce qui s'inquiète d'une activité sismique intense tout près de l'île de Santorin. Le premier ministre grec qui vient de s'exprimer appelle ses habitants au calme alors qu'il y a un risque de séisme et un phénomène géologique très intense, dit-il, sur cette île des Cyclades. Cela fait 2 jours que ce phénomène sur place est observé. En Espagne, c'est l'ancien président de la Fédération espagnole de football qui est jugé depuis ce matin. Luis Rubiales, accusé d'agression sexuelle pour avoir embrassé de force sur les lèvres l'une des joueuses de l'équipe nationale, Jenny Hermoso. C'était en 2023, quelques minutes seulement après la victoire des Espagnols en finale du Mondial féminin. Et tout cela devant les caméras. Mathieu de Taillac, la joueuse, a pris la parole ce matin.
C'est à la procureure et aux avocats que Jennifer Hermoso a répondu. L'occasion d'abord, face au parquet et à son avocat, de donner sa version des faits, à la fois du fameux baiser, vu par des millions de personnes à travers le monde, mais dont il faut savoir si elle avait autorisé. Jenny Hermoso a nié avoir entendu aucune demande de Luis Rubiales. Elle a aussi pu exposer le comportement postérieur du président de la fédération et celui de ses collaborateurs.
Je n'ai pas pu réagir à aucun moment. Un chef m'avait embrassé. C'est quelque chose qui ne devrait arriver dans aucun contexte social ou professionnel. Personne n'a eu la dignité de me demander comment j'allais ou comment je me sentais. Ça devait être mon lieu sûr, mais j'ai senti que la fédération ne faisait rien pour me protéger.
Au lieu d'un lieu sûr, Jenny mentionne des pressions en nombre incalculable. Puis face à la défense de Rubiales, la footballeuse a dû se justifier, expliquer pourquoi, par exemple, elle n'a pas eu un geste de dégoût, le mot qu'elle avait utilisé, pour décrire ce qu'elle avait ressenti. Le procès doit encore durer une dizaine de jours. Luis Rubiales et les 3 autres accusés s'exprimeront en dernier. Madrid, Mathieu de Taillac.
À Montpellier, une élève de 14 ans sera jugée le 5 mars prochain pour avoir frappé la principale de son collège vendredi dernier. Celle-ci voulait lui confisquer son sac car il contenait des cigarettes. Le parquet avait demandé que l'adolescente soit placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de fréquenter son collège, mais la juge des enfants a refusé cette mesure. Comment gérer la relation de nos ados avec les réseaux sociaux? Tous les parents se posent cette question. Voici l'avis d'un spécialiste du numérique. Bill Gates, le fondateur de Microsoft, l'un des pionniers du secteur, était ce matin l'invité exceptionnel de France Inter. Et voilà les choix que lui-même a fait avec ses enfants.
On peut voir que dans certains cas, ça a mené à des choses mauvaises. Maintenant, quand on regarde les réseaux sociaux, les enfants qui se critiquent mutuellement, qui passent trop de temps dessus, il faut vraiment donner des formes à ces avancées technologiques. Et j'ai empêché mes enfants d'aller trop sur les réseaux sociaux avant 14 ans ou 15 ans, et j'essayais de suivre ce qu'ils faisaient. Et je pense qu'il faut en faire plus dans ce domaine. Donc,
On était un peu naïf sur l'impact de ces outils.
14-15 ans, nous dit Bill Gates, qui correspond en fait à la loi française. Il faut être âgé de 15 ans, je le rappelle, pour s'inscrire seul sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas toujours le cas dans les faits. On le sait, le Vendée Globe.
Bonjour, c'est Violette d'Orange. Je vous fais vivre mon Vendée Globe sur France Inter.
C'est la dernière ligne droite pour notre navigatrice Violette d'Orange qui fait route désormais vers les Sables d'Olonne et qui nous a envoyé ce matin sa traditionnelle et si appréciée carte postale.
Hello France Inter, c'est Violette sur le tour du monde. 83e jour en mer et là, c'est ma dernière semaine. Je vais contourner les Açores par l'ouest pendant les deux prochains jours, puis je mettrai le cap vers les Sables d'Olonne. Arrivée prévue pour le moment dimanche prochain. Ces derniers jours, j'ai pas mal enchaîné les manœuvres de voile parce que j'ai traversé la zone de transition entre les alizés et les dépressions d'Atlantique Nord. J'ai réussi à doubler deux concurrents et il en reste un, Kojiro, qui est devant moi, alors je donne tout pour essayer de l'embêter aussi. Chaque jour, je m'amuse à regarder le bout de chemin qu'il me reste comparé à celui que j'ai parcouru et je trouve ça fou. Je suis tellement heureuse et fière de moi d'avoir traversé tous ces océans, toutes ces épreuves. Alors il reste 6 jours, 6 petits jours où il faut se battre et en même temps continuer de prendre soin du bateau parce que celui-ci commence à être bien fatigué. Et puis 6 jours où il faut aussi que je vive chaque instant intensément parce que c'est sûrement mes dernières navigations sur ce bateau fabuleux et sur cette édition unique. Allez, à très vite!
Voilà, Violette d'Orange et sa carte postale dont nous profitons jusqu'au bout avant son arrivée au Sable d'Olonne ce week-end. Ce matin, Damien Séguin a pris la 15e place de ce Tour du Monde. Le skipper handisport qui avait déjà bouclé le Tour du Monde il y a 4 ans. 16e place pour Benjamin Ferré et 17e pour Tanguy le Turquet. Les arrivées qui se succèdent donc en Vendée. À Los Angeles, ça a été la grande triomphatrice des Grammy Awards. La cérémonie la plus importante pour l'industrie de la musique s'est déroulée la nuit dernière, c'est Beyoncé qui a remporté 3 trophées et enfin l'album de l'année pour son album Cowboy Carter. Autre récompense applaudie ici en France et notamment dans le sud-ouest d'où est originaire ce groupe. Gojira et la chanteuse lyrique Marina Viotti pour le Grammy de la meilleure prestation métal. On s'en souvient, c'était lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Mais le groupe français Justice a lui aussi obtenu une récompense pour le meilleur enregistrement Dance Electro et pour ce titre. Justice et Tame Impala dans un album évidemment France Inter. Je reviens à Beyoncé, elle a annoncé ce matin qu'elle serait en concert à Paris à un moment dans cette année 2025, si vous voulez l'applaudir. Soyez donc vigilants, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure de ce 13-14, la météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, nous parlons des prisons françaises confrontées au trafic de drogue, à la fois lieu de trafic, ces prisons et d'incarcération des trafiquants. Comment s'adapter? La secrétaire nationale du syndicat national des directeurs pénitentiaires, Aurélie Jam, est avec nous, 01 45 24 7000, pour vos questions. 13h45, notre feuilleton dans la vie de Marilyn Poulain, syndicaliste CGT devenue préfète à l'égalité des chances, parcours étonnant. Non. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Notre linguiste Mathieu Avanzi et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Mathieu, vous êtes inspiré par le budget, c'est l'actualité de la semaine. Les mots de l'argent selon nos régions.
Et vous pensez que parler d'oseille, de blé, d'avoine, c'était juste du langage courant? Aujourd'hui, on va pas faire les ratchous. On plonge dans l'univers fascinant des expressions régionales autour de l'argent.
Celle-là, je la connaissais. Et avec vous, Frédéric, une comédienne.
Valérie Caprisky, qu'on peut voir actuellement au théâtre dans la pièce Secret de famille. Et c'est un tube des Eagles que nous écouterons avec elle. Hôtel California, immense chanson qu'elle a découverte adolescente et qu'elle adore aujourd'hui encore chanter en soirée.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Enfin, au livre de poche, le roman de Serge Chalandon, L'Enragé. 1934, 56 gamins d'une colonie pénitentiaire se révoltent et s'enfuient. Tous seront capturés, sauf un. L'auteur imagine le destin de cet enfant, un fauve né sans amour, un enragé. L'Enragé de Serge Chalandon, un roman déchirant au livre de poche.
Docteur, c'est terrible. Je ne sais d'hésiter entre la qualité ou le prix, ou la qualité. Je suis totalement perdu. Aidez-moi.
Écoutez, Madame Latsou, je ne vois qu'un seul traitement, Akena.
Akena? Quel rapport?
Le rapport qualité-prix, Madame Latsou. Vous savez, chez Akena, il n'y a pas mieux, que ce soit pour les vérandas, les carports ou les pergolas.
C'est bon, Doc. Je suis guéri.
Akena, la reine des vérandas.
Et les pergolas.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est une journée calme, plus ensoleillée au sud qu'au nord.
Oui, sur les régions du sud, jusqu'aux Charentes, au Berry, au Jura. Très belle journée en effet sous le soleil. Du vent tout de même en Méditerranée, jusqu'à 50 à 60 km à l'heure. En remontant vers le nord, Lyonnais inclus, là les grisailles peuvent résister. Alors elles se déchirent progressivement, le soleil revient. C'est le cas sur le bassin parisien depuis ce matin. Mais ça va rester gris vers le Lyonnais, le Val-de-Saône, la plaine d'Alsace. Des nuages bas aussi vers la Champagne. Sur Bretagne et Cotentin, les nuages gardent l'avant également. Les températures évoluent peu, elles sont timides au nord, jusqu'au Lyonnais, 3 à 9 degrés le plus souvent. C'est plus doux au sud, 11 à 15 degrés, jusqu'à 17 sur le sud-est. Et puis demain, il faudra à nouveau composer avec ces grisailles matinales. Les gelées seront fréquentes. L'après-midi, retour du soleil le plus souvent. Ça restera parfois gris vers le nord-est. Et puis sur la Bretagne, quelques gouttes et du vent.
Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Aurélie Jam.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous êtes directrice adjointe du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. Vous êtes en direct des locaux de nos confrères d'ici Gironde, que je remercie. Vous êtes également secrétaire nationale du syndicat national des directeurs pénitentiaires. On est très heureux d'être en ligne avec vous aujourd'hui parce que le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, est précisément en Italie aujourd'hui pour y puiser des idées dans la lutte contre le trafic de drogue. Il a notamment ce matin visité une prison près de Rome, où les trafiquants sont concentrés, les plus dangereux en tout cas, dans un même endroit de ce centre pénitentiaire. 01 45 24 7000 pour vos questions. Vous passez également via l'application France Inter. Aurélie Jam, Gérald Darmanin veut incarcérer à partir du 31 juillet prochain les 100 plus gros narcotrafiquants du pays dans une seule et même prison. Est-ce que c'est selon vous une bonne idée ?
Alors, l'objectif de s'occuper effectivement de cette problématique de la criminalité organisée est, à notre sens, au sens du syndicat national des directeurs pénitentiaires, un objectif tout à fait attendu. Simplement, sur la mise en œuvre, il y avait plusieurs projets qui lui avaient été soumis, et dont un notamment qui avait effectivement qui avait retenu notre attention, qui n'a pas fait le choix, Monsieur le ministre n'a pas fait le choix de ce projet-là, qui était plutôt en fait d'affecter dans des quartiers dédiés, dans plusieurs quartiers, de plusieurs établissements différents, pour justement éviter de centraliser les 100 plus gros narcotrafiquants sur le même établissement.
Donc plusieurs quartiers narcos dans plusieurs établissements pénitentiaires, c'était ça votre idée ?
Nous étions plutôt effectivement favorables
plutôt
à cette proposition-là.
Pourquoi ce dispositif-là, qui n'a donc pas été retenu par Gérald Darmanin, plutôt que le sien, c'est-à-dire retenir vraiment un seul établissement et y mettre les 100 plus gros narcos du pays ?
Alors, la crainte que nous aurions à notre niveau, effectivement, de centraliser les affectations des détenus particulièrement dangereux dans un seul et même endroit, dès lors qu'il s'agit en plus de personnes qui fonctionnent en réseau, donc forcément par l'idée d'être au contact ou de favoriser de continuer à travailler avec un certain réseau qu'ils organisent, nous dit que dans un seul et même établissement, c'est justement faciliter ce type de relation.
Ah, ils vont se mettre en relation les uns avec les autres, c'est ce que vous craignez, et donc ça va faire exploser peut-être même le trafic en fait.
Exactement, et puis ça peut aussi, dès lors qu'on peut avoir des réseaux concurrents, ça peut aussi engendrer des risques de violence, entre les personnes détenues, ou même des risques de violence ou de pression sur les agents qui les auront en charge.
Je peux m'en prendre peut-être à l'un de mes rivaux qui est incarcéré pas très loin de ma cellule.
Par exemple, ouais. Ça peut être le cas. Ouais. La difficulté...
Non, je vous en prie, allez-y.
La difficulté réside aussi dans le fait que si on centralise plusieurs dizaines de détenus originaires de différents endroits, la difficulté est effectivement aussi de leur permettre d'être à proximité de leurs magistrats lorsqu'ils sont prévenus et donc de les déplacer au gré éventuellement des demandes des magistrats.
Donc oui, parce ça, que c'est ça aussi... concernerait à la fois des prévenus, donc les enquêtes sont en cours, mais à la fois des personnes qui auraient déjà été condamnées, qui purgeraient leur peine.
Exactement. En tout cas, le ministre a annoncé effectivement vouloir affecter dans cet établissement des personnes détenues, qu'elles soient condamnées ou prévenues. Ce qui peut effectivement poser des soucis dès lors que le magistrat souhaite entendre son détenu et de demander effectivement son déplacement vers le tribunal, alors même qu'il est affecté dans un établissement à plusieurs centaines de kilomètres de son tribunal.
Il est jugé où l'enquête se déroule à Nantes, il est incarcéré chez vous à Bordeaux-Gradignan, il faut faire plusieurs centaines de kilomètres pour le présenter au juge.
Exactement.
Et ça, on ne sait pas faire. Ou en tout cas, c'est très risqué.
Voilà, c'est pas qu'on ne sait pas faire, mais dès lors qu'effectivement on doit assurer un déplacement d'une personne détenue qui potentiellement a des moyens assez conséquents à l'extérieur, c'est forcément une source d'inquiétude pour nous, personnel pénitentiaire, de devoir sortir ces personnes de nos établissements.
On a tous en tête l'attaque du convoi qui transportait Mohamed Amra il y a quelques mois en Normandie, la mort de deux agents pénitentiaires. Est-ce que depuis, Aurélie Jam, les convois sont mieux sécurisés? Est-ce qu'il y a eu des changements de ce point de vue-là?
Il y a eu effectivement des consignes qui ont été passées par le directeur de l'administration pénitentiaire. Un groupe de travail est actuellement en cours également avec les organisations professionnelles pour définir des doctrines d'emploi de nos équipes sécurisées, de nos équipes d'intervention également, dans le cadre de mouvements ou de missions sensibles avec ces détenus-là. Tout à fait.
On avait parlé à l'époque de la possibilité pour des juges d'entendre des prévenus à distance. Est-ce que ça s'est développé? Est-ce que ça se fait davantage? Ou bien rien n'a changé depuis quasiment un an?
Oui, ça se fait, c'est ce qu'on appelle les visioconférences. Ça se développe effectivement à la demande soit de la personne détenue, soit sur demande du magistrat. Les différents dispositifs de visio existent dans l'ensemble des établissements pénitentiaires. Néanmoins, il reste des actes judiciaires qui nécessitent un déplacement physique de la personne. Et donc, il y a encore quand même beaucoup effectivement d'extractions judiciaires qui existent aujourd'hui.
Je reviens à vos réserves sur le projet de Gérald Darmanin. Vous nous disiez, il y a une minute, Aurélie Jam, au fond, si on met tous ces narcotrafiquants ensemble, il y a un risque qu'ils rentrent en relation, en contact. Ça veut dire qu'on ne sait pas mettre à l'isolement total un détenu aujourd'hui, puisque c'est un peu un des présupposés du projet?
Alors, c'est un présupposé du projet. Le projet est même effectivement de limiter les activités et les interactions des personnes entre elles, tel qu'il a été rapidement présenté par le ministre. Néanmoins, un individu, effectivement, il doit pouvoir, et c'est la loi, sortir au moins en promenade une heure par jour minimum.
C'est deux heures en Italie, là où est aujourd'hui Gérald Darmanin dans cette prison.
Alors, deux heures par jour. D'accord. Dans la loi, en tout cas française, c'est minimum une heure par jour. Uh-huh. On a des quartiers d'isolement aujourd'hui hein, qui existent dans beaucoup d'établissements français qui permettent aujourd'hui déjà d'incarcérer les détenus dangereux et du coup de limiter effectivement leur interaction avec le reste de la population pénale. Néanmoins, évidemment, ça n'empêche qu'ils puissent avoir un certain nombre d'activités comme le sport, par exemple, au sein même du quartier d'isolement. Donc c'est tout à fait possible, ça existe aujourd'hui, mais, et c'est ce que le syndicat souhaite mettre en avant, c'est que cette modalité d'isolement quasi total dans un seul établissement dans lequel se trouverait une centaine de personnes reste encore à notre sens à définir, parce que ce projet est encore un peu flou selon nous, et on souhaiterait effectivement pouvoir travailler cela avec le ministre, notamment dans le déploiement de sa mise en œuvre.
Est-ce qu'un détenu qu'on met davantage à l'isolement est forcément un détenu plus violent, Aurélie Jam?
L'isolement en soi se décide effectivement sur des critères qui peuvent être liés à la dangerosité, et un isolement complet sur plusieurs mois, voire plusieurs années, peut évidemment entraîner une altération du comportement chez tout individu. L'interaction sociale, on le sait, facilite évidemment une meilleure détention aussi, que ce soit par les activités rémunérées par exemple, évidemment ça peut avoir des effets délétères.
Question d'Anissa qui nous appelle de Paris. Bonjour Anissa.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, donc en fait, je voulais poser comme question à votre invité. Alors moi, j'ai grandi à La Cailloule. C'est un quartier populaire collé aux Baumettes, à la maison d'arrêt des Baumettes.
À Marseille.
À Marseille, tout à fait. Et je voulais savoir, du coup, qu'est-ce qu'on allait faire concrètement pour endiguer le problème des surveillants pénitentiaires qui font rentrer des trousses de toilettes pour quelques centaines d'euros aux prisonniers. On le sait tous, puisque dans mon quartier, j'ai connu plusieurs personnes qui étaient incarcérées côté homme comme côté femme, et tous, au final, me disent la même chose, c'est le Club Med.
Et ils vous ont raconté quoi, ces gens que vous connaissez, avec qui vous avez discuté, Anissa?
C'est même pas des gens, c'est tout le monde le sait dans le quartier, on le sait tous, puisqu'on voit les gens attendre pour rentrer pour faire les parloirs, et ils se donnent les tips. Donc en fait, pour 400 euros, on peut faire rentrer une trousse de toilette avec un téléphone, un peu de drogue ou n'importe quoi, avec tel surveillant. Alors attention, je jette pas l'opprobre sur les surveillants, parce que vu les conditions de travail et les salaires qu'ils ont, et quand ils essaient de manifester, on les écoute même pas, je peux comprendre qu'on en arrive à des dérives comme ça. Maintenant, c'est à quel moment est-ce qu'on va prendre conscience de l'ampleur de cette dérive-là, de l'ampleur des salariés qui font ça. Il y en a, je ne dis pas que ça représente la moitié, mais ce n'est pas inexistant et c'est suffisant pour que les conditions d'incarcération ne dissuadent pas la récidive, en fait.
Merci Anissa pour votre question. Aurélie Jam, cela pose la question de la corruption éventuelle d'agents pénitentiaires.
Effectivement, c'est une question qui rejoint celle de la corruption. Ce qui est difficile dans le témoignage, c'est qu'on a une généralisation de situations qui sont plutôt réduites et qui ne sont pas les faits de la majorité, évidemment, des personnels.
Donc vous dites que c'est marginal comme phénomène, c'est ça, Aurélie Jam, c'est ce que vous nous dites ?
Oui, je pense qu'il vaut mieux évidemment mettre en avant les résultats en général obtenus justement par la lutte contre les trafics. Dans tous les cas, et pour répondre plus précisément à la question, quand on fait face à ce type de comportement qui peut être constaté par la hiérarchie notamment, il y a évidemment une réponse qui se veut disciplinaire et l'administration traite ces dossiers-là par voie de sanctions, voire de licenciement, évidemment, face à cette situation-là. Et bien sûr, ces deux types de comportements, qu'ils soient de la part du personnel comme de la part de celui qui incite le personnel à commettre ces faits-là, c'est-à-dire qui va payer l'agent, enfin celui-là aussi est largement aussi répréhensible que le personnel, relève évidemment d'une infraction pénale et donc d'un signalement au procureur de la République.
Ça vous est arrivé d'avoir à faire ce type de signalement ?
Oui, bien sûr.
Donc ce sont des affaires auxquelles vous avez déjà été confronté ?
Oui.
Ça pose la question de l'imperméabilité des prisons, finalement. Est-ce qu'on peut y faire rentrer ce que l'on veut avec, par exemple, des bakchiches ? C'est ce que nous disait Anissa, mais parfois simplement avec des drones, avec des livraisons aériennes. Est-ce que c'est un sujet pour vous, dans votre prison de Bordeaux-Gradignan, d'éviter que, par exemple, la drogue ne rentre en prison ? On entend beaucoup, la drogue, c'est aussi un lieu de deal. Est-ce que vous le constatez ?
Alors, je ne vais pas répondre, je vais répondre surtout au niveau, en tant que représentant du syndicat national des directeurs pénitentiaires, sur, effectivement, c'est un constat aujourd'hui, au regard d'un certain nombre de saisies qui sont faites dans les établissements. Le ministre parlait sur une autre radio d'une quarantaine de mille de saisies de téléphone, et c'est la raison pour laquelle nous, syndicats, souhaitons évidemment, et des sommes favorables au projet de Monsieur le Ministre d'un bon technologique qui serait de lutter notamment contre les téléphones et les drones qui servent de moyens de livraison, que ce soit des téléphones par exemple ou éventuellement d'autres objets de projection comme des drogues, par l'installation évidemment de dispositifs de brouillage supplémentaires.
Pardonnez-moi, mais c'est quand même une question sur votre établissement. Il y a des brouilleurs, il y a des dispositifs anti-drones, il y a des filets anti-projection dans votre établissement ?
Nous avons effectivement des éléments, alors je ne vais pas développer plus précisément et en détail, mais nous avons effectivement des dispositifs de sécurité structurelle.
Anissa nous parlait de Marseille il y a quelques minutes. Le personnel, et on l'a entendu récemment à Marseille, à la prison des Momettes, a fait l'objet de menaces de mort. Est-ce que ce sont des choses marginales ? Est-ce que vous-même, ça vous est arrivé ?
Alors, faire l'objet de menaces dans une carrière pénitentiaire, ça arrive à tous les corps et grades qui, effectivement, sont amenés à intervenir. Sur ce qui s'est passé à Marseille, on a quand même passé, effectivement, un gap assez important, puisque souvent, les menaces restent souvent verbales et ne sont pas forcément mises en œuvre. Mm-hmm. Mais ça peut, effectivement, arriver dans l'exercice de nos métiers.
Ça veut dire que vous prenez des précautions au quotidien ?
Forcément, lorsqu'on est amené effectivement à prendre des décisions qui peuvent jouer sur l'incarcération d'une personne détenue, on va peser évidemment les conséquences que cela peut avoir, essayer d'anticiper les réactions évidemment des personnes que nous avons en charge et de prendre parfois effectivement des précautions à titre individuel, puisque c'est un risque en fait qui nous reste en tête quotidiennement.
Ça veut dire que ça pèse aussi sur la vie privée, je suppose ?
Alors ça peut, dans le cas de Marseille, effectivement, ça a eu un impact assez conséquent sur les personnels qui étaient concernés à titre professionnel et personnel.
Ouais.
C'est vrai qu'il est, on cherche toujours évidemment à protéger la partie privée du professionnel.
Merci Aurélie Jam d'avoir accepté de répondre à nos questions. Aujourd'hui, directrice adjointe du centre pénitentiaire Bordeaux-Gradignan et secrétaire nationale du syndicat national des directeurs pénitentiaires. 13h45 sur Inter. Notre feuilleton. Nous passons cette semaine avec la préfète déléguée à l'égalité des chances du département du Bas-Rhin. Elle s'appelle Marilyn Poulain et son profil est pour le moins atypique. Elle a passé une dizaine d'années à la CGT, membre de la direction nationale du syndicat, dont elle a claqué la porte en 2022. C'est la première fois qu'elle accorde une interview radio depuis sa nomination. Et Cécile Bideau l'a rencontrée à Strasbourg. Nous sommes dans son bureau.
Je pense qu'on devait me regarder comme un ovni, en se disant « mais que vient faire cette famille cégétiste ici ?» Pour certains, je pense qu'ils ont questionné ma légitimité. Je me suis dit que c'était tout à fait possible de concilier mes convictions avec cette volonté d'agir localement. Donc ça a résonné forcément en moi.
Bonjour, vous allez bien ? Très bien.
Donc, je m'appelle Marilyn Poulain, je suis préfète déléguée pour l'égalité des chances dans le Bas-Rhin. Alors, vous voulez que je vous raconte toute ma vie ? Ça va être assez riche en rebondissements. Alors déjà, j'ai vécu toute mon enfance en Corse, dans un petit hameau. Puis j'ai fait des études littéraires. Je suis partie vivre au Chili pendant 2 ans, où j'ai enseigné le français langue étrangère. Quand je suis revenue en France, j'ai été recrutée dans une association qui s'appelle Autre Monde. C'est une association d'engagement de la jeunesse où j'ai, pendant 7 années, coordonné un projet d'alphabétisation dans les foyers de travailleurs migrants. Et donc, pendant ces années, je me suis retrouvée, on va dire, à côtoyer la CGT, notamment lors des premières grèves de travailleurs sans papier en 2006 et 2007. Et donc, je me suis fortement impliquée dans ces grèves, dans l'animation, en tant que militante. Je me suis syndiquée. Puis la CGT a décidé de me débaucher. De 2011 à 2022, j'ai été permanente de la CGT. Un certain nombre de faits m'ont amené à me questionner sur mon engagement, notamment des problématiques de sexisme et de machisme au sein de l'organisation syndicale. Donc quand j'ai quitté mes mandats en juillet 2022, il y a un portrait qui est sorti dans Le Monde qui retraçait mon parcours. Gérald Darmanin a pris attache avec moi. Il était alors ministre de l'Intérieur. Il était en train de réfléchir à la future loi immigration. Je dois dire qu'il m'a écouté et sa volonté, on va dire, au vu de mon attachement aux questions d'intégration, de se dire, cette personne a peut-être sa place dans la préfectorale et sur un poste qui pourrait être celui de préfète déléguée à l'égalité des chances. J'ai eu ensuite un entretien à l'Élysée, et donc j'ai su le 12 juillet au soir, à 22h30, que je serais nommée à Strasbourg. Alors, je ne suis pas macroniste, d'une part. Je pense qu'il n'y a pas de tabou à dire que j'ai des convictions de gauche, qui sont profondes et sincères. Ils le savaient, ils m'ont demandé de rester telle que j'étais. C'était pour moi, comme je vous l'ai dit, une opportunité de pouvoir continuer ce combat pour l'intérêt général. Oui, c'était juste pour faire un petit point sur l'agenda Mévudé, si ça,
oui,
ça ne vous gêne
bien
pas.
Bien sûr, la préfète.
Et je pars à quelle heure de la préfecture ?
Pour le déjeuner avec les élus ?
Oui.
12h30, 12h20. Je vais vous le noter ?
Très bien. Le premier mois, j'avais un peu la tête comme une pastèque tous les soirs quand je rentrais chez moi, parce que j'avais tous ces dispositifs, tous ces champs d'intervention avec lesquels je devais jongler. Donc la question, ça a été de faire ses premiers pas avec humilité, d'apprendre le métier. Et donc, ça me permet aussi d'avoir une corde à mon arc qui est différente de celle des autres, tout en ayant la nécessité de me former, bien sûr, sur des sujets où je suis novice par rapport à d'autres préfets.
Cécile Bideau pour ce feuilleton en compagnie de Marilyn Poulain jusqu'à la fin de la semaine et donc la suite demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France à 13h49. Le lundi, nous explorons les mots du français de nos régions avec notre linguiste Mathieu Avanzi. Mathieu, aujourd'hui, les députés français sont appelés à voter sur le budget cette semaine et on va donc parler d'argent. Et les expressions sont différentes selon nos régions.
Tout à fait, Jérôme. Parler d'argent, c'est se plonger dans une véritable mine d'expressions. Et ce qui est fascinant, c'est que beaucoup des termes qu'on emploie, pourtant dans la vie de tous les jours, hein, ils viennent du monde agricole. Alors prenez des mots comme blé, avoine, oseille ou encore radis. Tous font référence à des ressources essentielles à la survie et tous sont fort anciens. En fait, ils remontent au Moyen-Âge, ils proviennent d'une époque où l'argent sonnait rarement dans la bourse des paysans qui vivaient principalement d'échanges. On troquait du pain contre du fromage, du lait contre des céréales, etc., etc. L'argent, c'était donc une abstraction pour beaucoup de monde et les richesses étaient avant tout des denrées. On disait par exemple qu'un homme pauvre ne vaut pas une poignée de fèves, qu'une personne sans le sou, c'est une personne qui était fauchée, en référence aux moissons. D'ailleurs, on dit toujours, encore aujourd'hui, quand on n'a pas d'argent, qu'on est fauché comme les blés. Et sinon, Jérôme, vous savez pourquoi est-ce qu'on dit ne pas avoir un radis ?
Pas du tout.
Eh bien, c'est parce que cette racine bon marché symbolisait autrefois ce qu'il restait à manger aux plus pauvres.
Et donc, vous nous apprenez, Mathieu, que pour parler d'argent, nos régions rivalisent d'imagination.
Exactement, Jérôme. Pour parler de l'argent en lui-même, les régions savent jouer sur tous les registres, du plus petit au plus gros. En Bretagne, le terme « bigaille » désigne de la petite monnaie beaucoup plus haut dans la gamme. On a le « scalpa », c'est le nom du billet de 500 euros en Ile-de-France. Mmh. Verlan de Pascal, clin d'œil au philosophe qui illustrait les anciens billets de 500 francs, souvenez-vous. Mais c'est surtout pour parler des radins que les régions se sont montrées les plus, on va dire, créatives. Tenez, en Bretagne, un avare est qualifié de « pisse-crasse » dans le Limousin.
Moi, j'entendais dans un ratchou dans le Limousin. Ça existe, ça ?
Ouais. Exactement, exactement. Bien vu, un ratchou, vous venez de le dire. Si vous tirez un tout petit peu plus au sud, dans la région de Toulouse, à Gagny ou Cusson. En Mayenne, on dit d'un pingre qu'il a les poches en peau de hérisson. Autrement dit, qu'il a du mal à mettre la main au portefeuille. Et sinon, les régions n'ont pas seulement inventé des mots pour parler des radins. Elles regorgent aussi d'expressions relatives à la pauvreté ou aux difficultés qu'on a à obtenir de l'argent. En Bourgogne, on qualifie une personne pauvre de gueurlu. Dans le l'Artois et la région de Combray, si on vous dit loc frec ne peut point ressuer, autrement dit un chiffon mouillé ne peut pas essuyer, on vous rappelle que celui qui a peu d'argent ne peut en prêter. Enfin, on termine avec un proverbe savoyard, c'est chez moi, ça pleut toujours dans les grandes gouilles, autrement dit l'argent va toujours chez ceux qui en ont déjà.
Ce qui n'est pas totalement faux et ce qui nous ramène à l'actualité de la semaine, l'adoption ou pas du budget 2025. Mathieu, est-ce que nos expressions sur l'argent nous influencent aussi sur le plan politique ?
Excellente question, Jérôme. Les discussions autour du budget, c'est presque devenu un sport national. Et nos expressions montrent bien combien l'argent et sa gestion sont au cœur des préoccupations des Français. On dit que l'argent ne pousse pas sur les arbres, hein, pour rappeler qu'il ne tombe pas du ciel. Mais à l'opposé, certains critiquent ceux qui comptent leurs sous comme un avare, soulignant que trop d'économies peuvent freiner le progrès. Et enfin, on conseille de tenir les cordons de la bourse pour trouver cet équilibre entre dépenses maîtrisées et investissements réfléchis. En somme, Jérôme, que l'on soit radin ou généreux, l'essentiel reste de garder le sourire, même quand on a le porte-monnaie qui fait grise mine.
Je vous le confirme, cher Mathieu. Mathieu Avanzi, notre linguiste, chaque lundi dans ce 13-14 de C'est la France. Ah, c'est une chanson à votre micro. Aujourd'hui, Frédéric Pommier, on retrouve la comédienne Valérie Caprisky.
15 ans après sa dernière expérience sur scène, elle est de retour au théâtre dans la pièce Secret de famille d'Éric Assou. Une pièce à voir en tournée jusqu'au mois de juin. Et elle a souhaité me parler de la chanson « Hotel California », un tube des Eagles, sorti en 1976. À l'époque, Valérie Caprisky habitait à Cannes.
Je suis en vacances chez ma tante, à Madrid, et je dois avoir 14 ans. Elle m'emmène faire du shopping, et elle me dit « mais va acheter des disques », parce qu'avec sa fille, elle avait l'habitude de lui faire acheter des disques. Moi, j'avais pas tellement l'habitude de ça avec mes parents. Et donc, je vois une espèce de pile énorme qui était vraiment le hit du moment. Et j'achète ce disque sans savoir vraiment ce qu'il y a dessus, quoi. Et je tombe folle amoureuse de cette chanson, Hotel California. Et je rentre à Cannes avec ce disque. Et je l'écoute non-stop du matin au soir. En plus, pour la petite histoire, à cette époque-là, on vit dans la Californie, à Cannes. Un quartier qui s'appelle la Californie, Hotel California, bon, voilà. Et je sais pas, je suis emportée par cette chanson. Il y a quelque chose de très mystérieux, un peu dark, qui me plaît beaucoup, parce que j'étais très mélancolique comme adolescente. Et ensuite, quand je suis partie tourner à Los Angeles le remake d'À bout de souffle de Godard, donc c'est quoi, 4-5 ans plus tard, les producteurs me logent au Château Marmont, dans un premier temps. Et moi, j'ai associé Hotel California au Château Marmont. C'est Hotel California, c'est là, quoi. Donc je me suis dit, il y avait vraiment trop de signes. Je m'étais inventé toute une histoire.
Valérie Caprisky a donc découvert cette chanson quand elle était ado, Frédéric.
Et ça reste aujourd'hui encore l'une des chansons qu'elle écoute le plus et qu'elle chante le plus.
Cette chanson est quand même assez longue, hein. Je crois qu'elle dure 7 minutes. Mais je connais les riffs de guitare par cœur.
Et vous ne vous en lassez pas ?
Non, je ne m'en lasse pas du tout, non. D'ailleurs, c'est vrai que de temps en temps, quand je me retrouve dans une soirée, à un moment, il y a toujours un moment où je vais la chanter. Tout le monde me regarde en disant « Oh non, elle ne va pas !» chanter Hotel California.
Et quand vous la chantez, vous avez l'impression de retrouver vos 14 ans ?
Un peu, oui. Ouais, ouais.
Vous disiez tout à l'heure que vous étiez une adolescente très mélancolique.
Oui.
Est-ce que c'est un caractère que vous avez conservé ou vous êtes passée à une forme de légèreté apaisée avec les années ?
Ouh là là, j'aimerais tellement cette légèreté apaisée. Non, c'est-à-dire que j'exprime beaucoup plus ma joie aujourd'hui. Parce que, comme beaucoup de personnes, j'ai vécu beaucoup d'épreuves et je pense que la vie se charge assez de nous faire pleurer. Donc, il est vrai que j'ai une tendance mélancolique, donc il ne faut pas que je me laisse aller. Je lutte tout le temps contre ça et je ne rate pas une occasion de rigoler. Ouais.
Mais la vie vous a fait beaucoup pleurer ?
Oui. Surtout récemment, oui, j'ai vécu quand même le deuil de ma maman, ça m'a mise à chaos complètement. Et a suivi une dépression, plus le divorce en même temps, ça n'a pas été facile, oui.
Mais le théâtre aujourd'hui, c'est une forme de renaissance pour vous ?
Oui, vraiment. une forme de renaissance, de thérapie, parce que je pense qu'il y a un lâcher-prise aussi, de ma part. J'ai moins peur du ridicule, je suis moins dans le regard des autres, je m'en fous un peu plus. C'est-à-dire qu'avant, j'étais tellement obsédée par ça, le regard des autres, ça m'angoissait terriblement. J'avais tellement peur de ne pas être aimée, de ne pas plaire, de ne pas être légitime, que ça bouffait tout le plaisir, quoi. Alors que là, je kiffe.
Hotel California, les Eagles. C'était donc Frédéric, le choix de Valérie Caprisky.
Valérie Caprisky que vous pouvez retrouver dans la pièce Secret de famille. La pièce se joue notamment vendredi à Enghien et dimanche à Hyères.
Merci Frédéric et à demain.